Sur le Causse, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, 12h à la pendule de présence. Merci d'être fidèle à ces programmes de votre radio chrétienne sur l'ensemble du Midi Pyrénéen. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, c'est le Présence Midi, au cours duquel, dans quelques instants, nous allons partir du côté de Rodez, puisque la chronique verte de Benoît Guillard sera un petit peu particulière aujourd'hui. Nous allons parler du Festi Rural qui va se dérouler au cours du mois d'août prochain. Puis nous parlerons du prochain projet de loi sur la fin de vie qui va être mis sur la table à partir du 12 mai prochain et débattu par nos députés. Pourquoi nous allons et sur quelle manière nous allons parler de ce projet de loi, nous allons en parler avec l'invité de Anne-Rose Jankovic qui est visiteur d'EHPAD et plus particulièrement de l'EHPAD de Orgue situé à côté de Tarbes. Nous aurons également les informations et puis nous reviendrons un petit peu sur le pape François suite à son décès. Anne-Rose Jankovic est allée à la rencontre des personnes qui se sont rendues à la messe en l'honneur du pape François. Elle a recueilli certaines de leurs réactions suite au décès du pape François. Et puis, nous terminerons, comme à l'accoutumée, le vendredi avec la chronique littéraire de Catherine Albrecht. Aujourd'hui, elle met à l'honneur Paul Éluard. Voilà le programme de cette heure que j'ai le plaisir de partager avec vous et que nous débutons avec les titres des informations de ce vendredi.
Dans l'actualité, qui dit pont dit circulation. Le trafic routier risque d'être fortement perturbé d'après Vinci Autoroute, notamment au niveau de l'A61, direction Narbonne, de 10h à 14h et vers 19h ce dimanche soir, mais également l'autoroute A69 de 10h à 15h et le soir vers 20h. Vinci Autoroute n'a cependant pas mentionné l'A62. Les services régionaux et départementaux de l'État seront fermés exceptionnellement aujourd'hui. Parmi eux, la préfecture de la région Occitanie du département de la Haute-Garonne, les sous-préfectures de Muret et Saint-Gaudens, la cité administrative de Toulouse et certaines de ces directions régionales départementales, les unités de gendarmerie de la Haute-Garonne et les services de la direction interdépartementale resteront ouverts. C'est le 50e anniversaire de la chèvrerie d'Escan de Crabes. Cette petite exploitation familiale est devenue l'un des fleurons de la production du fromage en Occitanie. À l'occasion, cette ferme aux dimensions internationales organise un festival les 14 et 15 juin à Escan de Crabes. La fête du vin et des saveurs revient pour sa 12e édition dans le Lot. D'aujourd'hui à dimanche, vous pourrez retrouver plus de 37 productions réunies dans une ancienne ferme restaurée à Saint-Projet, tout près de Gourdon. L'abus d'alcool est cependant dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La chorale des jeunes chantés pour servir vous invite à une soirée de louanges sur le thème « Fêtons la joie de Pâques ». Demain, à l'église d'Aussonne, de 20h30 à 22h, des chanteurs et musiciens vous proposeront de beaux chants de louanges, un temps d'intention de prière ainsi qu'un moment de partage en petits groupes pour ceux qui le souhaitent.
Retour de l'information aux alentours de 12h30.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Elle a une chronique verte un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous partons dans le Cantal. Nous allons parler en tout cas du Cantal grâce à Armand Gall de Rodez qui a son micro. Catherine qui est coprésidente de l'association CMR.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Bonjour Karine.
Bonjour Armand.
On est là ensemble pour évoquer la première édition de ce Festi Rural qui aura lieu donc au Lioran dans le Cantal. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association CMR? Qu'est-ce que ça signifie ces trois lettres?
Alors, CMR, c'est Chrétien dans le monde rural. C'est un mouvement d'éducation populaire et d'action catholique. Et on est partagé en fédération. Donc, on est à peu près plus de 6500 membres répartis donc en fédération sur toute la France. Et le siège est à Paris avec où on se retrouve pour prendre les décisions en CA.
Au niveau de l'historique de l'association, qu'en est-il ? Ça a été créé il y a longtemps ?
Alors, au niveau de l'historique, ça a été créé avec la JAC. C'est un mouvement qui est né avec la CE, le MRJC, le CMR, enfin tous ces mouvements d'action catholique. Tous ces mouvements sont issus de la JAC.
Alors, c'est quoi les objectifs de cette association ?
Au CMR, on se retrouve en équipe. La priorité, c'est de se retrouver en équipe et de réfléchir ensemble à notre vie et de les mettre en action, de trouver des actions. Notre slogan, c'est le voir, juger, agir. Voilà. Et donc, il y a des équipes qui se retrouvent à leur rythme et sur toute la France. Et depuis quelques années, au niveau du CMR national, on a décidé un peu de sortir de nos équipes et d'être plus acteurs du développement local. Et on a un slogan, c'est « Aller vers, cheminer avec ». Et d'où l'idée de ce festival rural au Luron, qu'on a travaillé avec les acteurs locaux. Et pour sortir un peu de nos équipes et aller vers les autres.
Alors les événements du coup que vous organisez, c'est dans toute la France ou c'est centralisé dans une région ou une autre ?
Alors chaque fédération organise ses temps forts, en fonction du thème ou de l'actualité. Et au niveau du mouvement national, nous avons jusqu'à présent, nous avions toujours proposé des congrès. On a régulièrement proposé des congrès. Avec le Covid, le dernier congrès n'a pas pu se réaliser. Et d'où aussi l'idée d'avoir une rencontre nationale festive.
Alors au niveau du type d'événement, du coup, c'est vraiment des choses comme le festival rural ou il y a d'autres choses encore que vous faites
hein ? Alors, les thèmes liés au CMR, c'est la ruralité. Donc c'est l'agriculture, c'est la mobilité, c'est la famille, c'est la santé en milieu rural. Et donc en fonction des groupes, ça peut être une réflexion sur l'eau, ça peut être une réflexion sur l'alimentation, ça peut être une réflexion sur l'agriculture. Et donc chaque fédération est libre d'organiser un peu son temps fort.
D'accord. Alors, si on souhaite faire partie de votre association, être bénévole, vous donner un coup de main, comment ça se passe ? C'est quoi la démarche ? Il faut prendre contact avec la Fédération nationale ou c'est vraiment plutôt local ?
Pour rejoindre les CMR, c'est tout simple. Il suffit de s'adresser à quelqu'un. Donc, nous avons un site où toutes les fédérations sont répertoriées et donc on peut nous joindre facilement. Alors il y a donc le projet de rejoindre une équipe pour partager sa vie à la lumière de l'évangile par le voir, juger, agir. Ou alors rejoindre les temps forts quand il y a des propositions de réflexion possible aussi. Et puis là, pour le festival rural, on a un site spécifique au festival rural avec possibilité de s'inscrire pour donner un coup de main.
D'accord. Alors justement, ce festival rural, on y vient. Première question concernant cet événement, pourquoi avoir choisi le Luron ?
Alors, pourquoi le Luron ? Parce que Didier Noblot, évêque de Saint-Flour, était l'évêque référent au mouvement d'action catholique au niveau de la conférence des évêques de France. Et il n'y a pas de mouvement d'action catholique dans le Cantal. Et lors d'une rencontre avec donc l'évêque, il nous avait parlé de ce manque. Et quand on avait l'idée de faire ce grand rassemblement festif, on cherchait un peu où le faire. Et comme Didier Noblot nous avait invités à venir faire un temps dans le Cantal, ben on l'a contacté, on a dit on est prêt à venir, mais on a un grand projet, et donc il nous a soutenus, encouragés, et depuis on travaille ça, on réfléchit ça avec lui.
Alors du coup, pour cette première édition, le rendez-vous est donné les 22, 23 et 24 août, donc au Lioran dans le Cantal. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire qu'est-ce qui va se passer exactement, nous parler de la programmation?
Alors, au niveau de la programmation, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des rencontres en chemin j'ai rencontré, c'est-à-dire des marches où on va à la rencontre de producteurs locaux. Il y a aussi des thématiques, les thématiques du mouvement, que ce soit la mobilité, la santé, la solidarité, l'énergie, l'eau, l'intergénérationnel. Donc il y a un village des initiatives avec par rapport à tous ces thèmes et des rencontres, des discussions par rapport à tous ces thèmes-là. Il y a aussi une exposition. Toutes nos CD sont invitées à faire à prendre en photo leur ruralité. Et ça sera présenté sous forme d'expo photo, la ruralité de la France par toutes les fédérations, sous forme d'exposition photo. Il y a bien sûr des conférences. Alors nous avons invité Valérie Joussaume qui va ouvrir le festival rural avec une conférence le vendredi L'avenir est dans nos campagnes. Il y a des tables rondes par rapport aux territoires ruraux, comment cultiver l'eau, par rapport à l'écologie, par rapport à tous les thèmes qui sont proches du CMR. Il y a aussi des pièces de théâtre, deux pièces de théâtre. Une sur le travail qui a été réfléchi par une équipe fédérale, et puis une pièce de théâtre paysan hors contrôle. Il y a des ciné-débats, il y a un espace pour les enfants, il y a un espace pour les jeunes, il y a des librairies. Une librairie avec des médias alternatifs. Il y a un espace CMR où on mettra en valeur la pédagogie du CMR et des outils du CMR. Il y aura aussi un espace foi où on peut parler de sa foi et vivre différentes façons de se mettre en relation avec Dieu. Le soir, il y a des concerts. Il y a un concert le vendredi soir, un concert le samedi soir. Avec les producteurs locaux, il y aura un marché paysan et certains vont proposer des repas paysans. On a un beau programme très varié et très diversifié.
Il y aura vraiment du coup une espèce de village festi-rural au pied du Lioran, c'est ça?
Voilà, donc sur la prairie du Lioran, ça sera le village, voilà. Un grand village avec différents endroits, avec les thématiques, un arbre à palabres où on peut discuter. Il y aura des activités autant pour les enfants que pour les jeunes. Il y aura un bal folk aussi, voilà.
D'accord. Vous nous parliez au tout début de la programmation des marches pour aller vers les producteurs. Du coup, on ira marcher, mais par exemple, on ira se rendre dans une ferme, ou c'est plutôt les producteurs qui seront sur place?
Alors, il y a des marches où on va voir une ferme, mais aussi des marches thématiques. Par exemple, il y a une marche par rapport à la problématique du lait. On part du Lioran, on va visiter le Buron, qui est juste à côté.
Ouais.
Et il y aura, donc on explique un peu ce que c'est un Buron. Et en même temps, on va parler de la problématique du lait et puis il y a d'autres marches par rapport à la forêt, il y a une marche par rapport à l'eau et puis il y a des marches où on rencontre effectivement des producteurs par exemple par rapport à il y a la ferme de la Croix de Fécine à Plot, il y a la visite de la ferme des Fourches.
Et alors est-ce qu'il faut réserver pour ces activités?
Alors, la réservation se fait sur le site festirural.org.
Oui.
Et donc, on s'inscrit et on peut s'inscrire aux différentes... Alors, toutes les activités ne sont pas encore à l'inscription, mais... Donc, c'est une inscription soit sur les 3 jours, soit on peut s'inscrire en journée ou en demi-journée.
C'est quoi les tarifs à peu près environ?
Alors, les tarifs, si on s'inscrit en avance par Internet, c'est 70 euros les 3 jours. Et la journée, c'est 40 euros, en ayant un prix pour les enfants et un prix solidaire.
D'accord. Donc, on peut bien sûr retrouver toute cette actualité, toutes ces informations.
Toutes ces informations sont sur le festirural.org.
Très bien.
Informations et billetterie aussi.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Karine, on vous souhaite à vous et à toute l'équipe un bon festival, une bonne première édition du Festi Rural. Je le rappelle, rendez-vous nombreux les 22, 23 et 24 août au Lioran dans le Cantal. Merci Karine.
Merci.
Et puis merci également à Armand Gall de Radio Présence Cahors de nous avoir proposé ce sujet aujourd'hui en remplacement de la chronique verte de Benoît Guillard que bien sûr nous retrouverons la semaine prochaine. Voici Paolo Conte.
Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do. Chibum, chibum, bum.
It's wonderful. C'était Paolo Conte sur Présence.
Radio Présence dans la Haute-Ariège. 92.7.
Mardi dernier, le 29 avril, Monseigneur Jean-Marc Mika a présenté une messe, a présidé une messe à la cathédrale Notre-Dame de la Cède. Je vous propose d'écouter cette interview réalisée par Andros Jankovic. Mardi dernier, le 29 avril, Monseigneur Jean-Marc Mika a présidé une messe en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, à la mémoire et pour le repos de l'âme du pape François. À l'issue de la messe, Anne-Rose Jankovic a tenu son micro aux nombreux diocésains venus prier pour le souverain pontife. Elle leur a demandé pourquoi ils ont tenu à assister à cette messe. Voici leur réponse.
Pourquoi vous êtes venu pour cette messe en mémoire du pape François? Quelle était votre motivation?
Eh bien parce que je pense qu'il faut rendre grâce pour ce que le pape nous a apporté. Et puis on est membre de l'Église, donc on se réunit quand un des nôtres s'en va.
Quel profil pour le futur pape? Est-ce que vous vous dites dans vos prières, ah, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça?
Alors oui, moi j'ai un grand chouchou, c'est le cardinal Bustillo, mais ça c'est le cœur qui parle. Non, je ne fais aucun pronostic parce que le père David Marie m'a dit un jour, c'est l'Esprit Saint qui œuvre. Heureusement qu'on ne choisit pas son prêtre, son évêque et son pape parce qu'il nous fait plaisir. Donc voilà.
Amen.
Amen.
Alors jeune homme, pourquoi êtes-vous venu à cette célébration en mémoire du pape François? Pourquoi c'est important pour vous?
C'est important pour moi parce que c'est lui, c'est notre père dans l'Église. Il nous guide. Enfin, il a fait grandir l'Église et il nous. Il l'a fait grandir, du coup, faut le remercier pour tout ce qu'il a fait pendant ces années pontificales.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'il était important qu'en diocèse, nous remercions le pape pour toutes ces années, tout ce qu'il nous a donné, de nous replonger dans la miséricorde, de voir le Seigneur dans chaque personne qui sont en face de nous. Et je remercie aussi beaucoup le pape pour sa dernière encyclique Dilexit Nos, il me semble, où tout part du cœur du Christ. Il y a une magnifique encyclique qui mérite vraiment d'être. Et je pense que c'est un peu son testament. Et voilà, j'aimerais bien qu'on développe.
Alors le pape François, moi, ce que je retiens, c'est la joie de l'Évangile, c'est-à-dire qu'il. Dans son cœur, ce qu'il a voulu nous transmettre, ce qu'il a vécu, c'est cette joie-là. Et je pense qu'un chrétien joyeux, c'est déjà un témoignage. Et en ce temps pascal, c'est ce que j'ai à cœur de porter sur le visage et de porter autour de moi. Et je pense que le rôle d'un pape, c'est justement d'insuffler la joie de l'Esprit-Saint.
Voilà. Donc c'est ce pourquoi vous rendez grâce, et puis c'est aussi ce que vous espérez pour le futur souverain pontife.
Voilà, tout à fait. Mais je pense que c'est la prière des chrétiens qui va faire que la joie va se répandre dans le monde et que la vérité de cet amour d'un Dieu qui nous aime, qui est Père et qui s'est fait homme pour nous, je crois que c'est une joie que chaque jour on peut s'en émerveiller, qu'on n'en mesurera jamais le. Enfin, il n'y aura pas de fin, quoi. Enfin, c'est infini. Voilà.
Ça, c'est beau, c'est rassurant en même temps. Merci. Messieurs, bonsoir. Je vous interromps. Juste, pardon, un petit moment sur le pape François. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous voulez dire en hommage au pape François? Pourquoi peut-être c'est important pour vous d'être là ce soir?
Moi, je tiens à rendre hommage en tant que chrétien d'abord, parce que je ne connaissais pas plus que ça le pape François. J'ai lu la dernière encyclique et j'ai surtout entendu parler de l'encyclique Laudato si. Voilà, je veux retenir d'abord ça, cet engagement en faveur de l'environnement, parce qu'on parle beaucoup de l'engagement en faveur des migrants notamment, mais moi je retiens ça, l'engagement en faveur de l'environnement, parce que c'était quelque chose de précurseur encore à cette époque, et je pense que depuis ça a inspiré pas mal de gens, et pas seulement des ONG.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris le décès du pape François le lundi de Pâques?
La surprise, parce qu'il semblait aller mieux. Depuis quelques jours, il semblait aller un petit peu mieux. J'ai pas trop suivi au jour le jour les bulletins quotidiens de santé, mais j'ai été surpris parce qu'il semblait aller mieux. Il avait parlé la veille au balcon du Vatican, donc je pensais que ça allait mieux. Les médecins étaient optimistes, oui, j'ai été surpris, surtout la surprise.
Alors la surprise, certainement pour beaucoup de personnes, et puis pour autant, ce soir, lors de cette messe à la cathédrale, pas une tristesse, plutôt de l'espérance, de l'action de grâce, vraiment. C'est ça le sentiment qui ressort de cette messe?
Oui, du recueillement, c'est aussi lié au fait que je pense qu'on est dans le prolongement du temps pascal, on est encore dans le temps pascal, donc on est dans l'attente. Le Seigneur Jésus, il s'est pas encore nécessairement manifesté à tout le monde, pas toujours à tous les apôtres, donc on est dans l'attente quelque part. Voilà, c'est un recueillement, ça s'y prête, j'allais dire. Oui, on a confiance parce qu'on a eu des rôles, en général des bonnes surprises lors des derniers conclaves, même s'il faut pas comparer. Et donc voilà, on est dans un temps de recueillement, de confiance, d'espérance.
Merci beaucoup. Mesdames, bonsoir. Un petit mot sur le pape François, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez retenir de lui ?
L'amour des pauvres.
C'est pour ça que vous êtes venus ce soir à la messe à la cathédrale ?
Pour tout le reste.
Alors dans tout le reste, votre voisine a peut-être quelque chose à dire pour vous. Qu'est-ce que vous retenez du pape François et pourquoi c'était important pour vous de venir à la messe ce soir ?
Parce que c'était un saint homme. Et que je l'ai
Ça y est, alors vous canonisez. Vous canonisez les défunts papes.
Oui, c'est un saint homme et que j'ai pu le voir deux fois.
Ah bon, alors racontez-nous.
Alors je suis allée à Rome un soir de Noël. Et grâce à Monseigneur Brouvet, j'ai pu aller à la messe de minuit.
Au Vatican, à Saint-Pierre de Rome.
Voilà. Et on ne savait pas qu'on avait des Basques avec nous. Et ils ont chanté. Et le pape, il était...
Quand il a entendu le cœur basque, il était ému.
Il est très, très ému. Voilà, on l'a vu de près.
Madame.
Oui, non mais je vous entends si souvent, mais je ne vous connaissais pas.
Ah mais ça enregistre là. Vous écoutez Radio Présence. Est-ce que vous voulez bien dire à Radio Présence quelque chose sur le pape François, un souvenir que vous allez garder dans votre cœur?
Mais je l'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup sa simplicité. Et voilà, quand il parlait, on comprenait toujours tout ce qu'il disait. Il était très, très humain, très...
Et c'est ça que vous aimeriez pour le futur pape, un autre pape simple qui proche de vous.
Oui, regardez, Jean-Paul II était très différent et je l'aimais aussi beaucoup. Alors,
et Benoît XVI. Entre-temps, il y a eu Benoît XVI.
Oui, différent aussi, mais... Ben, on les aimait.
On aime nos papes.
On aime nos papes.
Eh ben voilà, ben ça c'est une belle conclusion.
Ils font tellement pour nous qu'on ne peut que les apprécier.
Eh ben merci. Non, mais s'il vous plaît, un souvenir que vous allez garder du pape François.
Oui, sa simplicité et sa joie. Sa joie, un peu ce que disait notre évêque à la messe, cette joie de l'évangile, la joie d'annoncer Jésus. Et sa bonté en fait, sa grande simplicité en fait.
Le fait que ça le rende proche des gens.
Oui, exactement, exact. Très proche des gens d'ailleurs, très proche des gens.
Pourquoi vous êtes venu ce soir? C'était important pour vous de prier pour le pape François ou avec lui, pas seul chez vous, mais avec tout le diocèse. Qu'est-ce que ça change au fond?
Eh ben, ça change tout de prier avec des frères et sœurs, de chrétiens, catholiques surtout. Je crois que c'est très important de prier pour l'âme de notre pape, parce que tout en étant pape, il est aussi un homme. C'est important d'accompagner son âme. Et c'est important d'accompagner aussi en tant qu'homme, mais sa charge aussi. Voilà, il était notre pasteur, le pasteur de toute l'Église, de l'Église universelle, pardon. Et en fait, de prier ensemble en église, c'est très important et plus porteur pour le ciel, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à nous. Allez.
Père Bertrand et Père Dominique, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous retenez, chacun de vous, du pape François? Un souvenir, peut-être un texte, un voyage, un instant, un échange, peut-être que vous lui avez parlé. Qu'est-ce que vous retenez du pape François? Père Bertrand.
Moi, je retiens quand il a fait son pèlerinage en Terre Sainte, où il a su arrêter les services d'ordre et tout le monde pour aller poser la main sur le mur de Bethléem. Et l'après-midi, en suivant, c'était sur le mur des Lamentations. Donc, c'était pas l'un sans l'autre pour demander la paix et prier pour la paix.
Ah, très beau souvenir.
Ce que je garderai, c'est le... Lorsque le pape François rappelle que l'Église doit être ouverte à tous, et cette question de la miséricorde, hein, avec l'accueil des personnes, des personnes qui ont besoin d'être sauvées, d'être guéries, qui sont blessées, Je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. L'année de la miséricorde hein, qu'il a donnée aussi. Et comment, ben, tout au long de... Voilà, on voit bien comment cette question de la miséricorde est très importante dans l'Église. Hein, et partir... Moi, je suis très touché aussi par le rappel de la piété populaire.
Ça, c'était en Corse, en particulier.
En Corse. Et notamment, je pensais à ça hier, dimanche de la Divine Miséricorde, où voilà, on a l'image, hein, le tableau de Jésus miséricordieux. C'est un tableau qui appelle une certaine sensibilité. Et avec ce mot, Jésus, j'ai confiance en toi. Et ce que je disais, c'est que, voilà, cette piété populaire, souvent on dit, je ne sais pas comment prier, ben voilà, je peux me mettre devant le tableau, dire, Jésus, j'ai confiance en toi, et même si j'ai des doutes, ben, petit à petit, ben voilà, la confiance s'installe. Et hier, c'était comme chaque divine miséricorde, un dimanche après Pâques, ben voilà, l'évangile de Thomas, hein, voilà. Donc, je trouve que c'est... Oui, la miséricorde et la confiance, hein. Et la joie d'être sauvé de l'Évangile.
Merci beaucoup.
Du pape François, ce que je retiens, c'est sa visite à Ajaccio, que j'ai trouvé extraordinaire, et cette proximité avec la piété populaire est vraiment extraordinaire. Et on a vécu vraiment de très très grands moments pendant sa visite. Garderai quand même l'image d'un homme très très près de son peuple et de son troupeau.
Merci. Madame,
une phrase, ne vous laissez pas voler l'espérance.
Ah, mais ça c'est beau. Alors ça c'est beau. J'aurais pu garder ça pour la fin, mais la fin c'est avec vous, chère sœur Elisabeth.
La présence aux personnes détenues. Quand je vois que le pape François est allé chaque année, bien sûr, dans les prisons, le jeudi saint, laver les pieds des personnes détenues, y compris dans les prisons de femmes, et laver les pieds des femmes détenues. Quand je vois qu'il y est allé peu de temps avant son départ pour le ciel, bien sûr, il ne savait pas quand il allait partir, mais il devait déjà bien se sentir fatigué. Et que 3 jours avant de partir au ciel, il a encore souhaité aller rencontrer les personnes détenues pour leur dire que l'amour du Seigneur est pour eux aussi. Et avant tout pour eux, ça c'est vraiment touchant.
Eh ben voilà, merci beaucoup.
Et merci Anne-Rose Jankovic que nous allons retrouver dans 3 petites minutes.
Radio Présence à Pau 96.
12h32 à la pendule de Présence. Très très bon appétit. Voici le journal de la mi-journée.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, qui dit pont dit circulation. Certains d'entre vous profitent de ce premier week-end à rallonge, peut-être depuis hier. Le trafic routier risque d'être fortement perturbé d'après Vinci Autoroutes. L'entreprise a communiqué les routes à éviter. On y retrouve notamment l'A61 direction Narbonne de 10h à 14h et vers 19h dimanche soir. L'autoroute A69 sera globalement très empruntée aussi de 10h à 15h mais également le soir vers 20h. Vinci Autoroutes n'a cependant pas mentionné l'A62. Les services régionaux et départementaux de l'État seront fermés exceptionnellement aujourd'hui, parmi eux la préfecture de la région Occitanie, du département de la Haute-Garonne, les sous-préfectures de Muret et Saint-Gaudens, la cité administrative de Toulouse et certaines de ses directions régionales départementales. L'accueil du public reprendra lundi 5 mai selon les horaires habituels. Malgré cela, les unités de gendarmerie de la Haute-Garonne et les services de la direction interdépartementale de la police nationale resteront ouverts.
On fête un anniversaire aujourd'hui.
Effectivement, Jonathan, c'est le 50e anniversaire de la chèvrerie d'Escan de Crabe. Cette petite exploitation familiale est devenue l'un des fleurons de la production de fromage en Occitanie. En 2018, la ferme des Huns est passée en agriculture biologique. Les fromages du Gaec des Huns sont disponibles au musée du fromage à Paris, à Strasbourg, à Marseille, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Italie et au Danemark. À l'occasion de ses 50 ans, la chèvrerie organise un festival les 14 et 15 juin à Escan de Crabe. Avis à tous les amateurs de vin de la région, la fête du vin et des saveurs revient pour sa 12e édition dans le Lot. D'aujourd'hui à dimanche, vous pourrez retrouver plus de 37 producteurs réunis dans une ancienne ferme restaurée à Saint-Projet, tout près de Gourdon. Organisée par le Lions Club de Gourdon, un peu moins d'une quarantaine de vignerons et producteurs s'installeront. Venus de presque toutes les régions françaises, ils partageront leur passion et feront déguster leurs produits. L'abus d'alcool est cependant dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La chorale des jeunes chantés pour vous servir vous invite à une soirée de louanges sur le thème « Fêtons la joie de Pâques » demain à l'église d'Aussonne. De 20h30 à 22h, des chanteurs et musiciens vous proposeront de beaux chants de louanges, un temps d'intention de prière ainsi qu'un moment de partage en petits groupes pour ceux qui le souhaitent. Pourquoi ne pas profiter des jours fériés pour une randonnée à Mazamet ? Avec sa passerelle, vous aurez accès à un édifice suspendu à 70 mètres au-dessus de la vallée de l'Annette. De l'autre côté, vous arriverez dans les ruelles médiévales du Haut-Poul, ce village perché, où flotte encore le souvenir des Catarès. Une demi-heure suffira pour profiter de la vue ou d'un réconfort dans le café au sommet.
Alors que les députés ont repris leurs échanges à propos du projet de loi sur la fin de vie, Anne-Rose Jankovic a rencontré Charles de Castelbajac. Engagé bénévolement pour visiter les personnes âgées à l'EHPAD d'Orgue, près de Tarbes, il nous raconte sa mission.
Bonjour, je m'appelle Charles de Castelbajac. Avec mon épouse Guylaine, nous habitons à Barbazan-de-Batte depuis 2 ans. Nous sommes engagés dans la paroisse et personnellement, je suis engagé dans la visite des personnes âgées à l'EHPAD d'Orgue depuis 1 an et demi, avec une messe qui est organisée chaque mois et des visites des personnes âgées.
Alors Charles, pour ma première question, c'est la raison qui vous a conduit à vous engager auprès des personnes âgées, à vous décider d'aller les visiter à l'EHPAD?
La raison principale, c'est la parole de Dieu. Parce que depuis quelques années, j'ai dans le cœur une parole qui m'a poussé à toujours aller vers les personnes fragilisées. C'est la parole qui dit « Écoute, chaque matin, j'ouvre tes oreilles pour que tu ailles porter à l'autre une parole de réconfort. » Je dis cette parole comme ça, je ne la connais pas par cœur, mais c'est le sens. Hein. Et de plus, j'ai une nature, moi, à me tourner vers les personnes faibles. J'ai toujours eu cette nature, même quand j'étais plus jeune. Hein. Donc, en arrivant ici à Barbazan, je me suis posé la question, j'ai dit « Seigneur, moi je veux bien visiter des personnes âgées » parce que j'avais déjà suivi une formation à Bordeaux pour visiter des personnes en fin de vie, mais je n'avais pas pratiqué du tout. Voilà, j'avais suivi la formation, puis après il y avait eu le Covid et nous sommes arrivés ici. Et donc, quand on est arrivé ici, j'ai dit « Seigneur, je veux bien aller où tu voudras, mais je ne veux pas faire de la voiture, je ne veux pas aller à l'autre bout de Tarbes, etc. » Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'étais accompagné par l'Esprit-Saint, puisque il y avait cette EHPAD d'Orgue qui venait d'ouvrir, et qui était en vélo à 10 minutes de chez nous. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis proposé à la paroisse de Barbazan.
C'est dur de franchir le cap de ce... Alors... d'avoir le désir d'y aller et puis un jour de se dire « Bon allez, cette fois-ci j'y vais, je pousse la porte d'abord de l'église pour dire mon souhait de me mettre au service, puis ensuite, allez, j'y vais, je pousse la porte de l'EHPAD et je vais à la rencontre de ces personnes. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile dans cette démarche ?
Non, ça n'a pas été difficile parce que j'ai bien compris que c'était une réponse du Seigneur, quoi, que c'était la volonté de Dieu. À travers cette parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Donc, dans ce cas, je me suis trouvé dans la paix intérieure pour ça. Hein. Donc, ça n'a pas été une démarche contrainte, ni par devoir. Ça a été simplement une réponse à cette parole. Donc ça a été assez facile d'y aller. Hein.
Concrètement, comment ça se passe ? Parce que, donc, il y a la dimension d'écoute, probablement, vous allez nous l'expliquer. Mais il y a aussi... une posture, toutes les personnes n'attendent pas la même chose. Comment ça se passe concrètement quand vous rendez visite ?
Écoutez, je me suis formé. J'ai pensé que c'était important de se former parce qu'effectivement, il y a une dimension d'écoute. Et c'est pas forcément naturel, quoi. Enfin, chez moi en tout cas. Donc, la formation que j'ai reçue à Bordeaux déjà. Pour les soins palliatifs, c'était une formation à l'écoute aussi, hein, beaucoup quand même. Hein, donc voilà, j'ai peut-être des dispositions naturelles aussi à écouter, je ne sais pas. Et puis ensuite, c'est vraiment empirique. Hein. Moi, j'ai fait des visites. Au début, j'étais avec certaines personnes, je n'étais pas très à l'aise, mais parce que j'attendais quelque chose. Mais je crois que j'ai compris petit à petit que, en poussant maintenant la porte, je pousse la porte quand je rentre, je dis paix à cette maison. Ou quand je pousse la porte d'une personne, je dis paix à cette chambre. Et puis voilà, et puis j'écoute d'abord, oui, en effet.
Qui est-ce que vous allez rencontrer ? Des personnes qui demandent la visite d'une équipe pastorale, donc qui attendent aussi
peut-être un petit peu d'évangile, ou bien des personnes qui sont vraiment en demande d'une visite, mais pas forcément d'une annonce.
Il peut y avoir les deux. À Orgue, il y a des personnes que nous avons rencontrées à la messe, puisque nous organisons une messe par mois, donc on va devant des personnes, on leur dit bonjour, et on leur dit, écoutez, à certaines, on leur dit, si vous voulez, on peut venir vous voir. Il y a ça, donc ça, ce sont des personnes croyantes qui demandent soit à recevoir l'Eucharistie, soit simplement à parler, quelquefois aussi, ou à prier. Et puis il y a d'autres personnes, moi j'ai rencontré, quand je suis arrivé à l'EHPAD, j'étais un peu choqué, parce que j'ai rencontré, dans les couloirs, moi je dis bonjour aux gens, et je vois une dame qui me croise, et je lui dis bonjour, je parle avec elle, et elle me dit, vous savez monsieur, si la loi sur l'euthanasie était passée, moi j'aurais demandé à en bénéficier.
Faut l'accueillir ça.
Voilà, alors ça m'a un peu choqué, et cette femme, je l'ai retrouvée un jour à la messe, elle est venue à la messe, et comme elle m'avait dit qu'elle n'était pas croyante, j'ai été vers elle, je lui ai dit, mais madame, vous m'avez dit que vous n'étiez pas croyante, donc je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Et alors elle m'a dit qu'elle avait perdu quelqu'un dans sa famille et qu'elle venait accidentellement à la messe. Et je lui ai dit, écoutez madame, si vous voulez, je peux venir vous voir la semaine prochaine dans votre chambre. Elle m'a dit, non monsieur, je ne veux pas. Alors je lui ai dit, écoutez, réfléchissez pendant une semaine, et la semaine prochaine je viens frapper chez vous, et à ce moment-là vous me direz non, ou vous me direz oui. Et la semaine d'après, je vais la voir. Je frappe, je rentre, et je lui dis, alors vous avez réfléchi? Elle me dit, oui, j'ai réfléchi, je ne veux pas vous voir. Et bien, une heure après, j'étais encore dans sa chambre, en fait. Elle m'a parlé, ou je lui ai parlé, je ne sais pas. Enfin, il s'est passé quelque chose. Et cette personne, je la vois régulièrement maintenant. Elle n'a toujours pas la foi, a priori, je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur. Mais on a partagé des choses un petit peu personnelles ensemble, et je vois que la paix s'est installée, une certaine amitié, vous voyez. Et elle je crois qu'elle se sent reconnue peut-être, et elle se sent aimée, et je pense que c'est bien pour elle, et c'est l'Esprit Saint qui vraiment a fait les choses là, pour le coup.
Il y a beaucoup de choses intéressantes. Ces personnes que vous visitez sont à l'EHPAD, donc sont, il faut bien le dire, plutôt à la fin de leur vie. Cela dit, elles ne sont pas toutes en fin de vie. Il y a des personnes qui vont rester là, vivre à l'EHPAD plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut durer longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez dans le besoin de ces personnes qui sont âgées, qui ont eu une vie souvent bien remplie et qui arrivent au bout de la course, en tous les cas, au bout de cette course-là?
Alors, il y a deux sortes de personnes à l'EHPAD. Il y en a certaines qui sont très âgées, en effet. Mais moi, je vois surtout des personnes qui ne sont pas forcément très âgées, mais qui ont des problèmes neurologiques, qui ont des problèmes psychologiques et qui ne peuvent pas vivre chez elles. Donc, il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai 68 ans. Il y a des personnes qui ont 65 ans, et d'autres qui ont 75. Il y en a quelques-unes qui sont plus âgées aussi, qui sont vraiment des personnes âgées. Ce qu'elles ressentent toutes, de toute manière, c'est l'ennui, la solitude, et l'ennui, le sentiment de plus être utile, parfois. Mais surtout, je crois, la solitude qui pèse aux personnes. Et être là, être avec elle simplement, quelquefois, ça suffit, quoi. Mais avec les personnes plus jeunes, effectivement, là, l'ennui est encore plus prégnant, peut-être, parce qu'elles peuvent se déplacer, elles pourraient faire des choses, elles pourraient être actives, finalement, et là, elles sont complètement prises en charge, quoi. Elles n'ont plus aucune responsabilité. Elles en souffrent, quand même. Elles ont besoin d'exister, quelque part. Voilà, donc...
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, les visiter plus souvent ?
Peut-être, alors ça c'est... Oui, moi j'y vais une fois par semaine, mais bon, je crois qu'il ne faut pas non plus s'épuiser à s'occuper des autres ou vouloir changer les choses, oui, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes, surtout nous on n'est pas nombreux là. Donc, voilà.
Alors, plus de personnes dans les équipes de bénévoles qui visitent, et plus de personnes formées aussi, puisqu'on a bien compris que c'est important, la dimension de formation est importante.
Oui, d'ailleurs nous, avec ma femme d'ailleurs, on était à une formation là, du diocèse sur l'écoute qui était passionnante, et ça nous a beaucoup aidé, enfin moi ça m'a beaucoup aidé aussi dans ces visites. Ça m'a un peu surpris, je pensais qu'à cette formation pour l'écoute par exemple, je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde, en fait on était moins de 20 personnes sur un diocèse comme Tarbes-Lourdes quand même. Oui. J'étais surpris que les personnes ne soient pas plus désireuse de se former, quoi, parce que moi je trouve qu'il faut vraiment se former pour comprendre l'autre, faire des visites comme ça, il faut quand même avoir un minimum de connaissances, je dirais, quand même. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent des choses aussi. Il faut accueillir les choses. Il faut pas dire n'importe quoi, pas essayer de vouloir les aider absolument, toujours.
Alors ça, c'est très intéressant, là, ce que vous dites, parce que ne pas vouloir les aider absolument, ça veut dire que vous ne venez pas en vous disant bah, « je vais lui donner ça, puis j'aurai telle reconnaissance ». Il y a quelque part aussi un abandon de votre part en disant bah, « on est là simplement pour écouter, pour être présent, et puis c'est pas à nous que revient la gloire ».
Ben ça c'est vrai, et ça je peux vous dire qu'au début je ne l'ai pas très bien vécu, parce que moi je poussais la porte en disant bon,
vous êtes le sauveur,
je vais les aider, voilà, je vais leur faire du bien, etc. Et en fait j'ai compris qu'il ne fallait pas y aller dans cet état d'esprit là, parce que quelquefois les personnes ne sont pas réceptives aussi, hein. Il y a des jours elles ne vont pas bien, ben, elles ne vont pas bien. Hein.
Donc, et ce n'est pas parce que vous venez qu'elles iront forcément mieux.
Exactement, et je me souviens le premier monsieur que j'ai vu, j'ai été le voir, je suis rentré dans sa chambre, il n'a rien dit, il ne disait rien quoi. Il avait voulu une présence, il disait rien. Mais moi, j'étais très très gêné parce que j'avais pas l'habitude du silence. J'avais.
Voilà. Alors, comment ça se passe quand c'est comme ça? On reste assis auprès de la personne? On est présent, simplement présent?
Mais moi, je lui ai dit, bah, écoutez, est-ce que vous voulez parler ou pas? Il m'a dit non. Donc, je suis resté avec lui, pas très longtemps. Et voilà. Et après, je suis revenu la semaine d'après, et il allait très bien, il m'a très bien accueilli, et ça s'est très bien passé. Après, j'ai été le revoir jusqu'à son décès, d'ailleurs. Donc, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir peur du silence, quoi, simplement. Il faut rester avec, il faut être...
Ouais, là, on est quand même dans un monde qui a peur du silence.
Peut-être, oui, peut-être, oui.
Ben, vous voyez, ce silence aussi, il est important. Tout à l'heure, vous avez mentionné la messe, cette Eucharistie, une fois par mois, hein, je crois que c'est ce que vous avez dit. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit bien le souci des personnes qui ne sont pas dans les EHPAD, dans nos villages, tout ça, qui s'inquiètent de là où sera célébrée la messe, avec le manque de curés, ça c'est une question qui revient souvent. Eh bien, ces personnes qui sont en EHPAD, elles doivent se contenter d'une messe par mois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'importance de cette Eucharistie au milieu de ce mois?
Écoutez, là, il y a, je crois, à peu près 75 résidents à Orgues, et il y a 25 personnes à la messe, ce qui est important, oui, quand même. Hein. Surtout qu'il y a une section Alzheimer aussi, donc où là, les personnes n'ont pas toute leur tête, certainement, enfin, ont des gros problèmes psychiques, donc je pense qu'elles ne viennent pas. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas, parce qu'on leur propose peut-être même pas. Et donc, non, c'est très important pour elles, hein, c'est sûr. Hein, c'est une nourriture. D'abord, c'est un lien social aussi, hein, la messe. Hein. Elles vont voir d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Nous, on vient du monde et on vient à elles. C'est le monde qui vient à elles, finalement. Donc, la messe, il y a ce côté humain. Et puis, il y a le côté... Après, moi, je ne suis pas dans le secret de leur cœur, mais il y a la foi de chacun. Hein, il y a la démarche spirituelle. Elles sont heureuses de venir, ça c'est sûr, sinon elles ne viendraient pas. Elles ne sont pas obligées de venir, donc elles viennent et on est heureux de les accueillir. Et puis voilà, et puis le Seigneur fait le reste.
Charles, aujourd'hui, vous avez eu avec les chrétiens de votre ensemble paroissial du sud-est de Tarbes la visite pastorale de Mgr Mika. Et lors d'un échange, vous avez voulu prendre la parole pour témoigner de ce que vous viviez là, de ce que vous vivez dans cet EHPAD de Orgues. Pourquoi c'était important pour vous? D'abord, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce que vous aviez envie de dire à l'évêque?
Écoutez, moi j'avais envie de dire à l'évêque que j'étais heureux de cette mission. D'abord j'ai été envoyé. Hein, voyez, tout à l'heure je vous ai dit que j'étais allé voir pour proposer mes services, mais en fait j'ai bien dit à notre curé, je lui ai dit, moi je me mets pas en mission moi-même. C'est l'Église qui m'envoie en mission. Ça, c'est vraiment important. Je ne m'approprie pas les choses. Si demain, il me dit, je ne veux plus que vous alliez à Orgues, je n'irai plus à Orgues, et ça ne me pèsera pas. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une mission que j'ai accueillie. Et puis, ce que je voulais dire, c'était que, oui, que j'étais heureux. C'était donner un encouragement pour ces missions qui sont quand même très nourrissantes aussi pour nous, hein, les chrétiens. Hein. Je crois que c'est le Seigneur qui nous amène à aller vers les plus fragiles, hein, la priorité donnée aux pauvres, et les pauvres, ben, ils sont là, ils sont à notre porte, hein, c'est pas la peine d'aller dans les pays lointains, hein, on les a là, disponibles. Et moi je suis très heureux de toutes ces visites et les liens d'amitié qui se créent, ça c'est vraiment très très puissant, et je suis sûr que l'Esprit-Saint fait son œuvre à sa manière. On a eu même un baptême On a eu une personne qui a demandé.
En EHPAD ?
Oui, ouais, on a baptisé en EHPAD une personne l'année dernière.
Donc une personne âgée qui a demandé le baptême ?
Pas une personne âgée, non, c'était une jeune personne qui depuis longtemps, elle me disait j'aime Jésus. Alors voilà, donc elle a demandé le baptême et puis elle a été baptisée dans l'EHPAD.
Bah, amen.
Amen, oui, ouais, c'était voilà, un cadeau vraiment visible et sensible pour nous, donc voilà, il y a des belles choses dans les liens avec le personnel aussi, hein, parce que quand on vient comme ça, souvent, régulièrement, les gens vous repèrent, évidemment. Oui. Et moi, je m'adresse aux autres avec simplicité. Hein, et
dans le personnel aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'écoute et, oui, et d'attention.
Oui, et l'autre jour, à la messe, il y a une aide-soignante qui est venue nous dire je veux être baptisée. Une jeune aide-soignante. Alors, on l'a mise en relation avec le prêtre, et puis voilà, quoi.
Là on est vraiment dans l'illustration de ce que Mgr Mika a eu l'occasion de dire tout à l'heure, lors de l'échange hein, qu'il a eu avec tout l'ensemble paroissial, enfin tous les chrétiens de l'ensemble paroissial du sud-est de Tarbes, vraiment de cette disposition du cœur. Voilà, alors cette personne-là qui a demandé le baptême, et puis aussi ce témoignage que vous, par votre simple présence, vous apportez. Voilà, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que l'évêque nous a dit.
Oui. Alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure et que j'aurais aimé dire, c'est mettre vraiment en exergue la parole de Dieu, parce que c'est vraiment ça qui m'habite, et c'est vraiment parce que j'ai reçu ces, et parce que je vis, parce que cette parole entre autres m'habite, que j'ai répondu, enfin que j'ai dit oui à ça, à cet appel que j'ai senti en moi. Vous voyez, c'est vraiment le Seigneur lui-même par sa parole qui m'a conduit là et qui me donne cette joie, voilà, qui vient de Dieu.
Merci beaucoup Charles de Castelbajac pour ce témoignage et puis bonne continuation dans cet engagement.
À bientôt, au revoir.
Une interview réalisée par Anne-Rose Jankovic, une interview que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Présence, radioprésence.com bien sûr.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Waiters Bill, Just the Two of Us sur Présence.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et comme à l'accoutumée, nous terminons ce Présence Midi du vendredi avec la chronique littéraire de Catherine Albrecht. Aujourd'hui, à l'honneur, Paul Éluard.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Paul Éluard. En novembre 1943, Paul Éluard et son épouse Nuche se réfugient à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole, sur les hautes terres de Margeride. Le poète surréaliste est recherché par la police et la Gestapo, car il est l'auteur du célèbre poème « Liberté », parachuté par les avions anglais à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France, avec les armes et les munitions destinées à la résistance. Il reste quelques mois caché dans la maison des fous, l'hôpital de Saint-Alban, dirigé par les médecins Lucien Bonafé et François Toquel, un éminent psychiatre républicain espagnol exilé là. Là se cachaient aussi, mêlés aux malades mentaux, de nombreux juifs, des résistants, des intellectuels. À Saint-Alban, Bonafé et Toquel expérimentent des pratiques psychiatriques nouvelles destinées à rendre leur humanité aux malades en leur confiant l'organisation d'activités collectives, en les intégrant à la vie courante de l'hôpital et à la population locale. Cette sociale thérapie consiste par exemple à les envoyer à faire les travaux des champs dans les fermes alentours, à créer et gérer une radio, un journal, une bibliothèque, à encourager la création artistique. Certains patients révèlent un talent insoupçonné, comme le sculpteur Auguste Forestier qu'Éluard présentera après la guerre à Jean Dubuffet, futur théoricien et collectionneur de l'art brut. Lors de son séjour à Saint-Alban, Paul Éluard va composer le recueil de poèmes « Souvenirs de la maison des fous » d'où est tiré le cimetière des fous, hommage au petit cimetière de l'hôpital et à ceux qui reposent sous une simple croix, sans nom, ni date. Ce cimetière, enfanté par la lune entre deux vagues de ciel noir, ce cimetière, archipel de mémoire, vit de vent fou et d'esprit en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue pour 300 morts masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison, leur cimetière est un lieu sans raison. De Paul Éluard, écrit à l'asile de Saint-Alban, extrait Le lit de la table en 1944. À travers le regard et les mots de Paul Éluard, inspiré par nos paysages, notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ce rendez-vous hebdomadaire avec la littérature. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi. Je vous rappelle simplement à 15h30 l'heure de la prière sur Radio Présence. Depuis la grotte de Massaviel au sanctuaire de Lourdes, le chapelet qui est médité pour toutes vos intentions. Très très belle journée à vous tous.
O prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, lança, parará, lança perfume. Perfume, para, lança. cego com um beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le conclave, il se prépare dans les congrégations générales qui réunissent tous les cardinaux électeurs ou non. Nous ferons d'ailleurs